Cette fin de semaine, Wookiefilm lance un nouveau documentaire, un documentaire télé qui s'appelle Passage à l'âge adulte, un documentaire qui suit l'histoire de trois jeunes Manitobains. Le réalisateur, c'est Gabriel Touga qui est avec moi. Gabriel, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Merci de parler avec nous aujourd'hui au sujet de ce nouveau documentaire parce que ça partage l'histoire de trois jeunes Manitobains, mais ce sont des jeunes aussi qui sont des personnes en situation de handicap. Alors, parle-nous un petit peu de ce documentaire. Quelles étaient les histoires que vous vouliez sortir en faisant ce film?
Oui. Le documentaire, d'abord, c'est une proposition que m'a faite Jérémy Wookie et Catherine Zulud, qui avaient tous les deux... élaborer un concept de documentaire avec Ami Télé, qui est un que moi, auparavant, je connaissais très peu, mais qui est un diffuseur qui se spécialise, qui produit beaucoup de contenu original qui porte sur et qui s'adresse aux personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Et Ami Télé voulait produire un documentaire qui racontait un peu ou qui racontait des histoires de l'Ouest canadien. Et Jérémy et Catherine avaient développé ce concept comme quoi on allait explorer l'histoire de jeunes francophones du Manitoba en situation de handicap qui terminaient l'école et qui entamaient leur vie adulte. Et les questionnements et les réflexions et les défis, les obstacles qui mm-hmm. Ressortent de ce cheminement-là. Et c'est là qu'on est venu à produire ce magnifique petit documentaire sur trois de ces jeunes-là, Cassia Gauthier, Riley Weir et Hayden Noe, qui sont tous un peu dans cette tranche d'âge-là de 16 à 18 ans mm-hmm. et qui sont en train de vivre chacun des différentes étapes de ce cheminement-là. Donc, Cassia, qui a gradué du Collège régional Gabriel Roy l'été avant qu'on a commencé à filmer et qui entamait un nouveau programme adapté en anglais au Collège Glenmont. Mm-hmm. Riley Weir, qui entamait sa dernière année à la même école, au Collège régional Gabriel Roy, une année qui comportait beaucoup de réflexions parce que c'était une dernière année avec ses pères qui l'avaient suivi essentiellement ou avec qui il avait fait toute sa scolarité depuis la maternelle essentiellement. Et finalement, Hayden Noe, un élève à l'époque en 11e année à l'école Pointe des Chênes qui entamait sa première expérience de travail. Puis on les a suivis pendant 8 mois pour témoigner de première main de, comme j'ai dit, toutes les expériences cognitives et émotives qui viennent avec ces nouveaux cheminements-là et ces nouvelles étapes-là.
Mm-hmm. Et puis, ces trois jeunes-là, est-ce qu'ils ont tous une différente réalité quand ça vient à leur situation d'handicap?
Oui, on voit à l'écran un mélange d'obstacles et de contexte et d'handicap physique, ainsi que des retards d'apprentissage et certaines difficultés associées avec l'apprentissage à l'école. Mm-hmm. Et avec ça, on a également interviewé des experts dans différents domaines qui touchent aux expériences surtout de jeunes en situation d'handicap, mais d'adultes aussi, pour un peu plus contextualiser les expériences très particulières vécues par ces trois jeunes-là. Mm-hmm. C'est très important pour nous, dans l'équipe de production, de ne pas généraliser, de vraiment explorer ces expériences spécifiques-là de ces jeunes-là et de leur laisser parler de l'expérience et de laisser leur famille parler de leur expérience à l'écran. Et si des gens... Si d'autres personnes et d'autres familles voient leur expérience reflétée là-dedans, tant mieux. Mais c'était pour nous l'occasion de raconter un vécu qui n'est pas souvent médiatisé, d'autant plus qu'on adresse une réalité très particulière de c'est quoi grandir lorsqu'on est une jeune personne en situation d'handicap comme personne linguistiquement minoritaire, en plus mm-hmm, de ça.
Oui, bien oui.
Quel rapport est-ce qu'on a, quel genre d'appui est-ce qu'on reçoit de, lorsqu'on est à la division scolaire franco-manitobaine? Quelles sont les questions qu'on se pose lorsqu'on va, par exemple, dans le cas de Cassia, aller chercher un programme qui est peut-être mieux adapté à nos besoins, mais qui doit se faire en anglais alors qu'on a parlé français toute notre vie? Tous ces questionnements-là, c'était des choses auxquelles on voulait toucher parce que c'était des expériences qui relevaient directement du vécu de jeunes francophones d'ici, qui est peut-être pas une expérience qui serait vécue forcément lorsqu'on vit en majorité, lorsqu'on est en situation de handicap.
Oui, c'est ça, leur réalité, leur situation, leur expérience est très différente. Puis faire un documentaire là-dessus qui partage leurs histoires, ça donne aussi la chance d'éduquer les gens aussi sur leur réalité, parce que c'est pas tout le monde qui comprenne non plus les besoins ou comment importants certains services sont.
Et en plus de ça, ce qui était important pour moi, surtout, j'étais très soucieux de ça en créant un documentaire sur Ami, parce que moi, j'avoue que c'est pas une réalité à laquelle j'ai personnellement eu énormément de contacts, et pour moi, ça a été un très grand apprentissage. Mais en tant que réalisateur, avec certains privilèges, c'était très important pour moi de réfléchir au fait que je ne voulais pas soudainement réaliser un portrait qui disait « Regardez à ces jeunes-là, découvrez leur réalité comme si c'était la première fois. Mm-hmm. » Parce que lorsqu'on réalise un documentaire pour Ami, on est déjà en train, dans une grande mesure, en train de s'adresser à des populations dont c'est la réalité et pour qui ce n'est pas un mystère, ces choses-là.
Ouais.
Donc oui, il y avait un peu de démystification pour des gens qui sont en train d'interagir avec ces sujets-là puis ces réflexions-là pour une première fois. Mais ce qui était surtout important pour moi, puis je suis très reconnaissant qu'on a eu ce luxe-là, c'était de tout simplement témoigner de cette réalité-là. Et autant qu'on a dû condenser cette réalité-là dans les 52 minutes qu'on voit à l'écran, de laisser respirer cette réalité-là et de ne pas surréaliser non plus.
Oui.
De tout simplement laisser le moment être le moment. Puis ça, c'était vraiment l'objectif qu'on a eu dans la réalisation du documentaire. Puis j'espère que ça se traduit à l'écran.
Oh, tout à fait. Et aussi, c'est Daniel Roy qui fait la narration pendant ce documentaire.
Oui, tout à fait. Daniel, c'était important pour nous, du début à la fin, que les perspectives qui soient articulées, que ce soit parce que le rôle de la narration est très important dans un documentaire. C'est la voix centrale du documentaire, en fin de compte, qui véhicule tout plein de faits, mais qui également joue un deuxième rôle dans une production originale d'Ami Télé, qui est la vidéodescription intégrée. Ami Télé a construit tout son modèle autour de la vidéodescription pour des gens ayant des limitations visuelles. Mm-hmm. Et dans leur production originale, au lieu d'avoir une voix séparée qui décrit le contenu visuel à l'écran, Ami Télé est très soucieux et a développé tout un nouveau langage cinématographique qui s'appelle la vidéodescription intégrée, où dans leur production originale, c'est-à-dire les productions qui sont à l'origine d'eux et qui sont financées par eux pour leur réseau, ils ont tout un système qui propose une intégration organique de la description visuelle dans le contenu de l'émission et dans les éléments narratifs ou dans le contenu des animateurs qu'on voit à l'écran.
Oh, wow.
Dans notre cas, on a juste une voix, ce qu'on appelle dans l'industrie une voix off ou une voix hors champ. Mm-hmm. Donc, on ne voit jamais Daniel à l'écran, puis il n'est pas en train d'interagir à l'écran avec ces personnages-là. On entend juste sa voix, mais c'est une voix qui est très reconnaissable pour ceux qui connaissent Daniel et suivent sa carrière comme artiste. Mais c'était très important pour nous que ce vécu-là soit senti. Évidemment, Daniel, son fils est en situation d'handicap et puis la famille a été vraiment très à l'avant dans la revendication des droits et des besoins des personnes en situation d'handicap et particulièrement de ceux de son fils en milieu scolaire et ailleurs dans la vie publique manitobaine. Et c'était très important pour nous que cette expérience-là soit vécue de l'intérieur. Moi, j'ai apporté ma vision de quelqu'un qui apprenait ça pour la première fois, puis j'ai voulu garder une grande humilité là-dedans, d'un point de vue de réalisation, mais que toutes les perspectives, que ce soit les voix des experts et des personnages, des personnalités qu'on voit à l'écran, les intervenants, nos sujets de documentaire, soient tous des personnes qui ont des expériences très intimes, très réelles et qui ont un vécu de très longue date dans la communauté de revendication pour les personnes en situation de handicap, pour qu'ils aient justement, pour qu'on ait cette authenticité-là à l'écran, puis qu'on ait cette représentation-là. Puis ça, surtout dans cette ère, ça a toujours été important, mais surtout dans cette ère, on est particulièrement soucieux de cette représentation-là, puis ça, c'est quelque chose d'autre qui a été, je pense, une des plus grande priorité pour nous dans la réalisation du documentaire.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et c'est très bien d'avoir ça comme importance, d'avoir une interprétation authentique, comme tu disais, parce que c'est comme ça que, ben oui, on a la chance de... Ben, certains gens ont la chance de se voir sur l'écran, ils comprennent la réalité de certaines, d'autres vont apprendre leur réalité. Donc, c'est quand même un documentaire assez puissant. Donc, ça va passer cette fin de semaine.
Oui, ça, notre grande première, c'est cette fin de semaine, c'est samedi à 17h sur Ami Télé. Ami Télé et son homologue anglais AMI sont tous les deux disponibles dans les forfaits de base de tous les câbles distributeurs et satellites. Donc, les gens peuvent consulter le site web d'Ami pour savoir, basé sur leur câble distributeur, comment capter la chaîne. Et c'est ça, pour moi, le documentaire existe à une intersection vraiment très intéressante de plusieurs différentes réalités. C'est ce qui m'a plu dès la première proposition, puis c'est ce qui m'a plu tout à travers de ce processus-là. Mm-hmm. J'ai eu le privilège incroyable d'interagir et que ces gens-là aient l'ouverture de partager leurs histoires à l'écran en souhaitant que d'autres puissent s'y retrouver et qu'on ait peut-être une meilleure compréhension de la société, comment on pourrait avancer et surtout mieux soutenir des jeunes lorsqu'ils passent à l'âge adulte, parce que une des grandes réflexions qu'il y a autour de cette période-là, c'est que le système scolaire joue un immense rôle d'appui lorsque un jeune est mineur.
Oui.
Puis ça, on voit ça dans tous les aspects de la vie. Et lorsque, dépendant du niveau de besoin, de l'intensité des besoins de la personne, le système public d'ordre général et la province de façon plus particulière appuient parfois peu, parfois beaucoup le jeune. Et ce soutien-là est souvent insuffisant, ou est souvent mal dirigé ou mal adapté à la situation de cette personne-là. Et ça peut créer beaucoup d'angoisse, même avant que cette personne-là soit d'âge adulte. Et une des grandes réflexions des parents, c'est s'ils vont garder leurs enfants dans le système scolaire jusqu'à l'âge légal de 21 ans pour pouvoir étendre ces ressources-là aussi longtemps qu'ils peuvent. Et ça, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Et on a justement interviewé Joël Pastorat-Sala dans le documentaire pour parler un peu de ce cas juridique-là. Et malheureusement, on n'a pas pu retenir autant de détails que j'aurais voulu dans le documentaire final. Mais les gens peuvent faire leur propre recherche et voir que le Centre juridique d'intérêt public du Manitoba est encore en train et a mené plusieurs différents cas juridiques pour revendiquer un plus grand éventail de services pour des jeunes adultes en situation de handicap, et ces questions-là sont toujours pas réglées et font pas partie de notre discours public et politique actuellement. Et pour nous, c'est notre façon d'apporter notre grain de sel pour conscientiser des gens qui auraient peut-être pas été conscients de ces enjeux-là au Manitoba.
Wow! Ben merci beaucoup, Gabriel, de nous raconter tout ça. Donc, c'est à voir, là, ce documentaire. C'est en diffusion, grande première, ce samedi. Puis ensuite, ça va être rediffusé au cours de la semaine, dimanche, lundi, mercredi et jeudi. Alors, les gens peuvent le voir plus qu'une fois, s'ils veulent.
Absolument.
Génial. Ben merci encore, Gabriel, pour partager tous ces détails.
Merci beaucoup.
Bye.
Bye.